Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 26 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. La RDC et le Rwanda sont d'accord pour la poursuite du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, selon la médiation angolaise. En Somalie, le président de l'état du Jubaland, dans le sud du pays, a remporté un troisième mandat lundi. Un haut responsable de l'ONU appelle les parties en conflit au Liban à accepter un cessez-le-feu au moment où Israël doit se prononcer ce mardi sur un accord. Ici aux États-Unis, le procureur spécial Jack Smith renonce à poursuivre Donald Trump au motif qu'il est désormais le président élu. Et dans notre partie magazine, aujourd'hui 25 novembre, la planète commémore la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Les instruments internationaux régionaux ne sont pas contraignants. Et donc, du coup, les politiques ne voient aucune opportunité et puis aucune...
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La République démocratique du Congo et le Rwanda qui ont signé un fragile cessez-le-feu début août ont approuvé un document clé pour la poursuite du processus de paix dans l'est de la RDC, a affirmé lundi la diplomatie angolaise, pays médiateur dans ce conflit, ce CONOPS. Document signé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens guidera la mise en œuvre du plan harmonisé censé ramener la paix entre les deux pays voisins, selon le communiqué qui ne donne aucun détail sur les modalités retenues. Des syndicats de transport routier au Camerounais ont appelé à la grève après la mort d'un chauffeur la semaine dernière en Centrafrique. Assassinat qu'ils attribuent aux paramilitaires russes de Wagner dans un courrier de revendication adressé au Premier ministre camerounais. Les chauffeurs routiers camerounais réclament une enquête sur la mort de leurs collègues et que des mesures concrètes soient prises afin que ce genre de crime ne se répète plus. Ils dénoncent le manque de sécurisation des travailleurs se rendant en Centrafrique et menacent d'entrer en grève sans préciser dans quel délai. Vendredi, le ministre des Transports centrafricain avait déploré la disparition tragique d'un chauffeur camerounais, précisant que les circonstances de sa mort restent encore à élucider. En Somalie, le président de l'état du Jubaland, dans le sud du pays, dont les relations sont houleuses avec Mogadiscio, a remporté un troisième mandat lundi, selon le Parlement régional. Le point avec Jean-Roger Billon.
Ahmed Madobe, un ancien chef de guerre au pouvoir depuis 2012, a obtenu 55 des 75 sièges du Parlement régional face à deux opposants, selon le président du Parlement. Le scrutin s'est tenu malgré la proposition du gouvernement central de le repousser à 2025. La victoire de M. Madobe a cependant été contestée par un sénateur du gouvernement fédéral qui a affirmé qu'il était le véritable vainqueur. M. Madobe a accusé le gouvernement fédéral du président Hassan Cheikh Mohamud de tenter d'attiser la violence. « Personne d'autre que moi n'est aux commandes ici maintenant », a-t-il déclaré dans son discours de victoire. Avec l'aide de troupes kenyanes, M. Madobe a chassé les islamistes radicaux Shebab de leur ancien bastion dans la capitale de la région, la ville portuaire de Kismayo, en 2012. Le Kenya et l'Éthiopie voisins voient dans le Jubaland une région luxuriante et relativement prospère de la Somalie, où ils ont de nombreuses troupes, un tampon contre les islamistes Shebab qui ont organisé plusieurs attaques sanglantes dans leur pays.
16 personnes, dont des étrangers, sont portées disparues et 28 ont été secourues après le naufrage d'un bateau du tourisme en mer Rouge au large de l'Égypte, ont annoncé lundi les autorités égyptiennes. Le bateau qui transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d'équipage a lancé des signaux de détresse à 5h30, 3h30 GMT, selon un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge. Dans le sud-est de l'Égypte, le gouvernorat a indiqué que 16 personnes étaient portées disparues, 4 Égyptiens et 12 étrangers. Une vague soudaine et importante avait frappé le bateau, le faisant chavirer, selon le gouverneur de la Mer Rouge. Au Malawi, des hommes masqués munis de machettes et de gourdins, ainsi que des tirs de gaz lacrymogène par la police, ont empêché lundi la tenue d'une manifestation voulant dénoncer la hausse des prix et un rationnement du carburant, ont indiqué des témoins. Un groupe de la société civile avait appelé à manifester dans la capitale Lilongwe pour réclamer la démission du ministre de l'Énergie après le rationnement du carburant décidé début novembre en raison de problèmes d'approvisionnement causés par des réserves de change insuffisantes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le procureur spécial Jack Smith a renoncé hier à poursuivre Donald Trump pour rétention de documents classifiés au motif qu'il est désormais le président élu. Il a aussi recommandé l'arrêt des poursuites pour tentative illégale présumée d'inverser les résultats de l'élection de 2020 pour la même raison. Jacques Aristide.
L'équipe de campagne de Donald Trump s'est aussitôt félicitée d'une victoire majeure pour l'état de droit. Jack Smith se conforme ainsi à une politique adoptée il y a plus de 50 ans par le ministère de la Justice, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. Bien que le cas d'un candidat poursuivi pénalement puis élu président soit sans précédent, le ministère a conclu lors des délibérations avec le bureau du procureur spécial que cette politique s'applique à cette situation, explique Jack Smith dans sa demande à la juge Tanya Chutkan à Washington DC au sujet des poursuites contre Donald Trump pour ingérence électorale. Il avait plaidé non coupable en août 2023. Dans le dossier de la rétention de documents classifiés contre Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche en 2021, Jack Smith avait fait appel de la décision de la juge fédérale Eileen Cannon en Floride, annulant la procédure en juillet dernier au motif que la nomination du procureur spécial dans cette affaire était inconstitutionnelle. Jack Smith renonce à présent à cet appel en vertu de cette politique consistant donc à ne pas poursuivre un président en exercice et appliquer à cette situation encore une fois qualifiée de sans précédent.
Le milliardaire Elon Musk, désigné par Donald Trump pour prendre la tête d'une commission devant réduire dans les dépenses de l'État fédéral américain, s'en est pris lundi aux avions de combat, affirmant que les drones représentent le futur. Le point avec Dilly Dico.
Les avions de combat avec pilotes sont obsolètes à l'ère des drones, avec pour seul résultat la mort des pilotes, a déclaré le patron de SpaceX et Tesla sur X. Elon Musk s'est attaqué au F-35, un avion de combat du constructeur américain Lockheed Martin, et considéré comme le porte-étendard des forces aériennes des États-Unis depuis son entrée en service en 2015. Le F-35 a récemment fait l'objet de contrats d'exportation vers la Roumanie, la Pologne et l'Allemagne. Sa mise au point a souffert de sa complexité, notamment pour la conception des programmes informatiques et ses coûts d'exploitation décriés par ses détracteurs. Elon Musk a déclaré lundi que le F-35 est une machine complexe et onéreuse, sans aucune spécialité au combat. Mais pour Mauro Ghilli, chercheur à l'école polytechnique de Zurich, ce qui rend le F-35 onéreux, ce sont les logiciels et les composants électroniques, pas le pilote en soi. Il ajoute que c'est important car un drone réutilisable aurait besoin de tous les composants électroniques du F-35. Le chercheur a conclu en disant que supprimer ces programmes relâcherait les contraintes sur les rivaux des États-Unis comme la Chine et la Russie.
Un haut responsable de l'ONU a appelé lundi les parties au conflit au Liban à accepter un cessez-le-feu. Israël doit se prononcer ce mardi sur un accord alors que les hostilités se poursuivent entre son armée et le Hezbollah libanais. Mohamedou Oumfa.
Les opérations militaires israéliennes ont continué à travers la ligne bleue, ligne de démarcation fixée par l'ONU entre le Liban et Israël, ainsi que les tirs de roquettes du Hezbollah vers Israël, a déploré devant le Conseil de sécurité de l'ONU Muhannad Hadi, adjoint de l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland. Je salue les efforts diplomatiques en cours pour parvenir à une cessation des hostilités et j'appelle les parties à accepter un cessez-le-feu ancré dans la complète application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de 2006, a-t-il ajouté. La résolution 1701 actait la fin de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Elle stipule que seules les forces de maintien de la paix de l'ONU et l'armée libanaise peuvent être déployées dans le sud du Liban. Mais le Hezbollah a maintenu une présence dans cette région et Israël y mène depuis le 30 septembre des opérations terrestres contre le mouvement pro-iranien. Le cabinet de sécurité israélien se prononcera mardi soir sur un accord de cessez-le-feu, a indiqué un responsable israélien sous couvert de l'anonymat, sans fournir d'autres précisions. « Nous pensons être arrivés au point où nous sommes proches d'un accord », a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, tout en soulignant que rien n'était encore acquis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Oumfa.
Le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, a appelé vendredi les dirigeants des 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger à une solidarité plus agissante et à des actions concertées en vue de relever les défis auxquels est confronté le bassin du fleuve Niger. D'après M. Adambi, ces défis sont de plus en plus nombreux et complexes, notamment l'inondation, la sécheresse, les conflits liés au déplacement des communautés auxquels s'ajoute la situation sécuritaire. Le gouvernement nigérien a adopté jeudi en Conseil des ministres un projet de décret portant sur le déclassement partiel de la réserve de faune de Dosso afin de permettre la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique sur une superficie de 7800 hectares. Cette raffinerie aura une capacité minimale de 100 barils par jour, selon les autorités nigériennes, qui prévoient de multiplier par 5 sa production actuelle, passant de 20 000 barils à 100 000 barils par jour. Le ministère malgache de l'agriculture et de l'élevage a annoncé vendredi son objectif de traiter 600 000 hectares de terrain dans le cadre de la lutte anti-acridienne pour l'année à venir. L'objectif est d'arrêter les dommages causés par les criquets ravageurs, de rétablir la stabilité agricole afin de garantir l'autosuffisance alimentaire à Madagascar. Selon le ministère, l'invasion acridienne affecte environ 270 000 hectares de culture et de pâturage dans le sud et le sud-ouest du pays.
Place maintenant au sport avec Eric Manelakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Rosine.
Commençons par la Ligue des champions en Afrique avec notamment un duel à 100% marocain.
La phase de groupe de la Ligue des champions CAF Total Energy débute pour les 16 équipes qualifiées avec une première journée prévue ce 26 novembre. Parmi les rencontres les plus attendues, un derby marocain d'envergure opposera le Raja Casablanca à l'AS FAR Rabat. Dans le groupe B, suivait Hubert Velud, entraîneur des phares de Rabat, lors de sa conférence de presse d'avant-match.
Je connais bien ces matchs-là, mais là on est dans un contexte qui reste marocain, avec un bon terrain, avec deux équipes qui se connaissent bien et tout. C'est aussi particulier. En ce qui concerne nos revanches, j'aime pas tellement ça, ce mot-là. J'ai pas senti chez mes joueurs forcément un esprit de revanche. C'est plutôt quelque chose de vouloir faire quelque chose, de s'imposer par eux-mêmes. Peu importe le Raja, après il y aura ma mélodie, il y aura le club congolais aussi qui sont très forts. On est dans un groupe très fort, très homogène et tout, et ça va être difficile pour tout le monde. On en a conscience. Nous, on veut s'imposer par nous-mêmes. Je pense que le passé, quelque part, entre guillemets, bien sûr, n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'expérience des joueurs.
Hubert Velud, entraîneur des phares de Rabat.
Ligue des champions en Europe, Ramos équipe MB sont dans le groupe du PSG à Munich.
L'attaquant du PSG, Gonzalo Ramos, blessé à la cheville en début de la saison, figure dans le groupe parisien pour affronter le Bayern Munich ce mardi, tout comme le défenseur Presnel Kimpembe, absent de très longue date, selon la liste révélée par le club lundi. Le stoppeur français âgé de 29 ans était indisponible depuis 21 mois à cause d'une blessure au tendon d'Achille. Le latéral Nuno Mendes, préservé face à Toulouse en Ligue 1 vendredi dernier pour une entorse à la cheville droite lors de la Ligue des Nations avec le Portugal, fait également partie du groupe parisien pour ce déplacement crucial en Bavière. Le retour de Ramos et Kimpembe à la compétition était une question de jour depuis leur présence aux entraînements collectifs la semaine passée. En revanche, le défenseur français Lucas Hernandez, qui a repris l'entraînement collectif, mais avec les jeunes du club lors de la trêve internationale, n'est toujours pas de retour avec les pros.
Vinicius Junior forfait pour le déplacement du Real Madrid à Liverpool mercredi.
L'attaquant vedette madrilène, blessé aux ischio-jambiers, est forfait pour le match de Ligue des Champions demain mercredi sur le terrain de Liverpool. Cinquième journée, a indiqué lundi le club espagnol.
Merci Eric. De nouveau avec vous, Rosine Onezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Aujourd'hui, 25 novembre, la planète commémore la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce fléau mondial persiste avec une intensité alarmante. L'ONU rapporte qu'au moins 85 000 femmes et jeunes filles ont été tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille en 2023. Face à cette réalité, des initiatives se multiplient pour inverser la tendance, dont la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre. Pour une analyse, Jacques Aristide adjoint à Douala, au Cameroun, la militante maximilienne Chantal Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
D'abord parce qu'il n'y a pas de volonté politique, n'est-ce pas, de ceux, c'est-à-dire les gouvernements qui doivent prendre, doivent mettre en œuvre tout ce qui a été pris au niveau régional, au niveau international. De deux, c'est parce que les féminicides sont souvent vus comme des choses normales, puisque ça relève, n'est-ce pas, de nos situations patriarcales, surtout en Afrique, et où, bon, il n'y a pas de problème, il y a des arrangements au niveau des femmes.
Quels sont les principaux obstacles empêchant aujourd'hui une véritable mise en œuvre des lois visant à protéger les femmes contre les violences dans les régions les plus touchées, notamment en Afrique?
Les instruments internationaux régionaux ne sont pas contraignants. Et donc, du coup, les politiques ne voient aucune opportunité et puis aucune urgence, n'est-ce pas, de transformer, alors de mettre en place les lois. C'est la première chose. Le deuxième, c'est que nous sommes quand même dans des pays très ancrés dans le patriarcat où la femme est la chose de l'homme et l'homme peut disposer de la femme, ce qu'elle veut. Et donc, c'est aussi même entretenu au niveau, n'est-ce pas, de politique, au niveau de ceux qui gouvernent. Et donc, c'est ça les obstacles. Le troisième obstacle, c'est qu'il y a beaucoup de manque de coordination aussi au niveau des organisations féministes pour porter, n'est-ce pas, ensemble la cause. C'est chaque organisation qui fait, n'est-ce pas, de côté. Et ça ne nous donne pas, le plaidoyer n'est pas assez fort pour, n'est-ce pas, faire pression. Donc les groupes de pression ne sont pas assez forts aujourd'hui pour faire plier, malgré qu'il y a l'obstacle qu'il n'y a pas de loi contraignant au niveau international et il y a, n'est-ce pas, cette pesanteur culturelle qui est une pesanteur patriarcale.
Quel rôle peuvent jouer les hommes et les jeunes garçons dans la lutte contre les violences faites aux femmes et comment les inclure davantage dans les initiatives de prévention?
Nous, au REDAC, nous avons commencé à inclure les jeunes, surtout les jeunes hommes et les autorités traditionnelles religieuses. Nous pensons qu'ils ont, n'est-ce pas, le levier pour faire reculer par la sensibilisation, la formation. D'abord, il faut former les jeunes, il faut former les autorités religieuses, il faut former les autorités traditionnelles pour leur faire comprendre que la femme, la jeune fille, ce n'est pas seulement celle qui doit être à la maison et qui va être mariée pour que le jeune homme, demain, lui, soit responsable. Donc, on les forme déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on autonomise les jeunes filles pour qu'elles restent autonomes et qu'elle ne soit pas fataliste en disant si je ne veux pas un mariage, si je n'ai pas une relation conjugale, même hors mariage, si je ne fais pas ceci, je ne veux pas survivre. Donc, il faut d'abord qu'elles survivent d'elles-mêmes et qu'elles vivent d'elles-mêmes et qu'elles vivent de leurs produits. Donc, on les forme, on leur donne les moyens, n'est-ce pas, de s'autonomiser. Je pense que voilà les deux choses d'abord. L'autre, dès qu'ils sont formés, notre rôle, c'est aussi d'éduquer, n'est-ce pas, les jeunes.
La militante camerounaise maximilienne Chantal Ngombe, récipiendaire du prix international du courage féminin 2021, décerné par le département d'État américain. En Côte d'Ivoire, les résultats du recensement électoral sont désormais connus. L'opération a permis d'enregistrer 943 157 primo-votants sur la liste. Un résultat approuvé par une partie de la classe politique ivoirienne et rejeté par une autre. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
943 157 nouveaux votants ont été enregistrés lors du recensement électoral qui s'est tenu en Côte d'Ivoire. Un résultat qui marque une progression par rapport au recensement de l'année dernière où 575 489 nouveaux votants avaient été enregistrés. La commission électorale indépendante se félicite de ce bilan. Bamba Siaka, quatrième vice-président de la CEI.
En ce qui concerne les nouveaux électeurs, les données brutes enregistrées, qui représentent presque un quart du potentiel de nouveaux électeurs attendus, sont encourageantes, car elles sont, à titre de comparaison, en nette progression par rapport aux données du recensement électoral de 2022-2023, où 575 489 nouveaux requérants avaient été enregistrés sur la liste électorale provisoire.
Malgré les résultats, l'opposition ivoirienne continue de réclamer une prolongation du processus. Elle estime qu'il y a une mauvaise gestion de la liste électorale et propose une extension de 3 mois. Sébastien Dano Djedje, président exécutif du PPACI.
Le manque d'affluence dans les bureaux, dans le sens du vote, dans le sens d'enrôlement, comme ça a été dit partout, mais surtout la défaillance des tablettes utilisées pour l'inscription des électeurs et l'incapacité à lire les puces des nouvelles cartes nationales d'identité qu'on nous a délivrées, croyant que c'était des cartes d'identité modernes. Certains agents recenseurs ont eu des difficultés à accéder au lieu d'enrôlement. D'autres ont été purement et simplement refoulés par des chefs d'établissement parce que les courriers ne sont pas parvenus à temps. Les lieux d'enrôlement sont parfois anonymes, par absence d'affiches pour indiquer les centres d'enrôlement. Ça s'est passé aussi à Cocody. On a noté aussi des retards dans l'ouverture de certains centres d'enrôlement.
Une position que le gouvernement ne partage pas. Tout a été mis en place pour le bon déroulement du scrutin, selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Les fois passées, c'est vrai qu'on n'atteint pas les objectifs. Il faut peut-être encourager davantage nos jeunes à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Une communication est faite en la matière. La commission électorale communique. Le gouvernement communique, les partis politiques communiquent. Si au bout, on n'a pas atteint les objectifs, je ne crois pas que ce soit en repoussant ad vitam aeternam que nous allons faire évoluer les choses.
La commission électorale se donnait pour objectif d'atteindre 4,5 millions d'électeurs. Elle n'a donc réussi qu'à enregistrer près d'un quart du chiffre recherché. Une abstention que certains analystes interprètent comme un désintérêt de la chose politique chez les Ivoiriens. Ange Bijounomian pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Afrique du Sud, un face-à-face a lieu depuis 2 semaines entre les forces de l'ordre et un nombre non confirmé de mineurs illégaux qui se trouvent dans une mine d'or abandonnée. Cela se passe à Stilfontein, à environ 150 km de Johannesburg. Selon des membres de la communauté locale, les mineurs, sans approvisionnement en vivres et en eau, seraient très affaiblis et ne peuvent remonter à la surface sans aide. Une opération de secours devrait débuter cette semaine. Patricia Huon.
Ici, sous la plaine de Stilfontein, plusieurs centaines de mineurs clandestins seraient coincés à 2 km de profondeur. Après de longues tergiversations, une opération de sauvetage devrait débuter dans les prochains jours, dit un porte-parole de la police présent sur place.
C'est une mine illégale. Ceux qui sortent seront arrêtés. Nous faisons de notre mieux pour que les mineurs puissent être secourus, mais je ne peux pas vous dire qu'ils veulent sortir.
En Afrique du Sud, des milliers de mines industrielles ont été laissées à l'abandon au cours des dernières décennies, lorsque l'extraction n'était plus suffisamment rentable pour les compagnies qui les exploitaient. Des creuseurs artisanaux, parmi lesquels de nombreux anciens mineurs licenciés, se sont infiltrés dans les galeries. Pour les Ratos Tsolo, juriste pour la province du Nord-Ouest, leur activité devrait être réglementée.
The unemployment rate is very much high, and when you interview majority of community members, Il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail. Si vous parlez avec les membres de la communauté, ils vous diront que cette activité minière illégale leur permet de survivre. Nous demandons au gouvernement de légaliser cela, d'enregistrer les mineurs et de leur donner des permis.
Mais pour l'instant, les autorités sud-africaines ont décidé de sévir. À Stilfontein, les policiers ont empêché depuis plusieurs semaines que de la nourriture, de l'eau ou des médicaments puissent parvenir aux mineurs afin de tenter de les forcer à remonter à la surface et pouvoir les arrêter. Michak Mbangula est membre d'une organisation qui défend les droits des communautés affectées par l'exploitation minière.
Le gouvernement est arrogant. Il y a ces grandes mines commerciales dirigées par des compagnies occidentales basées à l'étranger. Mais l'argent n'est pas redistribué aux communautés pour leur permettre d'améliorer leur vie. Pour cette opération de secours, ils vont d'abord envoyer des caméras pour évaluer la situation sur terre et voir comment procéder. C'est 5-7 jours de plus sans manger pour les mineurs. Au final, ce sont peut-être des corps qu'on va remonter.
Tout le monde ici garde en tête le drame de Marikana en 2012, au cours duquel 34 mineurs avaient été tués par la police sud-africaine qui avait ouvert le feu sur des centaines de grévistes. À Stilfontein, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Au Kenya, les agriculteurs utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leur rendement agricole. Un outil alimenté par l'intelligence artificielle appelé agronome virtuel interagit directement avec les agriculteurs pour leur permettre de créer des plans personnalisés visant à optimiser la qualité et la quantité de leur culture. Mohamed Youssouf nous en dit plus. Récit Thierry Kaoré.
Harry Gichobi utilise une application basée sur l'intelligence artificielle pour évaluer la fertilité du sol de sa ferme à Mwea au Kenya. L'application d'IA, appelée agronome virtuel, utilise un chatbot pour communiquer directement avec les petits exploitants agricoles via WhatsApp. En s'appuyant sur des informations satellitaires, l'outil collecte et analyse des données pour aider Gichobi à déterminer le type et la quantité adéquate d'engrais et de produits chimiques nécessaires pour maximiser ses rendements agricoles.
Cette technologie m'a aidé à connaître les nutriments présents dans le sol et à déterminer le type d'engrais à utiliser. Avant, je récoltais moins de 20 sacs, mais grâce à cette technologie, j'obtiens maintenant 26 sacs et plus.
Gichobi télécharge des photos de sa ferme. En retour, l'agronome virtuel lui envoie des images satellitaires de ses terres accompagnées de recommandations pour obtenir des rendements agricoles optimaux en termes de qualité et de quantité. À une époque où les agriculteurs sont confrontés aux impacts du changement climatique, l'application fournit également des conseils sur le type et la quantité de produits chimiques nécessaires pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Nicolas Kenua, également agriculteur, affirme que l'outil d'IA l'a aussi aidé à augmenter sa récolte de riz.
J'utilisais beaucoup de produits chimiques sur ma ferme, mais maintenant, je dépense moins d'argent comparé aux méthodes traditionnelles. Cette technologie m'a aidé à augmenter mes récoltes.
Judy Gakuya affirme avoir économisé de l'argent grâce à l'agronome virtuel et s'attend à une récolte de riz plus abondante dans les semaines à venir.
Je pense que je vais récolter bien plus qu'avant. J'utilisais trop d'engrais, ce qui coûtait cher et me rendait malheureuse. Mais maintenant, je suis tellement heureuse de visiter ma ferme. J'aime passer du temps ici, juste pour admirer mes récoltes. Cela me fait plaisir.
Le programme « Solutions innovantes pour l'agriculture décisionnelle » (ISDA) forme les agriculteurs à utiliser cette application. L'organisation indique que plus de 30 000 agriculteurs en Afrique, dont la moitié au Kenya, utilisent l'agronome virtuel. Les responsables précisent que l'outil dispose de données sur les sols pour l'ensemble du continent et aide les agriculteurs à cultiver et à gérer des cultures comme le maïs, le café et le thé.
Le système cherche à comprendre ce que fait le meilleur agriculteur afin de fournir une recommandation aux autres agriculteurs pour les rapprocher du niveau du meilleur. Nous voulons combler cet écart car si dans une même région, le meilleur agriculteur obtient 30 sacs et un autre seulement 20 sacs, nous souhaitons donner une recommandation qui l'aidera à atteindre presque 30 sacs.
Wanyaka précise qu'il faudra du temps pour convaincre de nombreux agriculteurs que l'utilisation de plus d'engrais et de produits chimiques ne garantit pas nécessairement des rendements plus élevés et de meilleure qualité.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero. À la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.